moi, être artiste, c'est continuer de jouer, en quelque sorte. Mais les sujets sont pas forcément les mêmes que quand on jouait quand on était enfant, avec d'autres thématiques, mais c'est une certaine liberté de création et d'imagination. Et voilà. Et je me souviens bien le moment où, plus jeune, j'ai voulu rejouer. Ça devait être au collège. Et j'ai pas pu, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai trouvé ce moment extrêmement triste. Et je pense que le fait d'avoir une pratique créative m'a permis de continuer ça, en fait.
Vous écoutez Cube Rouge, le podcast d'entretien où des plasticiennes contemporaines nous livrent le récit de moments clés de leur parcours de créatrice. Je suis Isabelle de Maison Rouge. Je suis critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, historienne de l'art et autrice. En tant que femme, je m'intéresse aussi à la position des femmes artistes dans l'histoire de l'art et aux questions qu'on ne leur pose pas assez. Comment poursuit-on sa route dans le monde de l'art et réussit-on à montrer son travail et le faire accepter? Comment vit-on de son art? Comment parvient-on à exister en tant que créatrice? Elle se définit comme sculpteur, comme artisane, mais aussi chercheuse. En fait, Jeanne Vicérial sort des définitions et des frontières. Les sculptures épidermiques de Jeanne Vicérial se veulent armures anatomiques, faites pour protéger et défendre, mais paradoxalement sont extrêmement fragiles, car faites de fil. Celle-ci parle de métamorphose et de consentement. Dérivant directement des règnes animal et végétal, si la mue évoque la transformation, l'état intermédiaire et le renouvellement entre la larve et l'imago, elle indique le passage d'abord de chenille en chrysalide par la nymphose, puis par la mue imaginale ou émergence en papillon. Mais également la mue traduit la dépouille qui en résulte. Avec ses organes vestimentaires, Jeanne Vicérial traite du corps humain et non humain en mutation et s'intéresse à sa disparition annoncée. Là, on est dans justement l'endroit où tu joues en permanence, puisque c'est ton atelier qui est également bureau, lieu de réflexion, lieu de travail en collectif aussi, puisque tu travailles avec des assistants. Est-ce que tu peux tout simplement nous parler un petit peu de ton processus de travail?
Mon processus de travail, il est pluriel parce que moi j'ai une formation de costumière et aussi de designer vêtements, et je suis aussi chercheuse en conception design, notamment en textile, donc j'ai un peu un processus qui va varier selon les projets, à savoir si je travaille sur mon projet plutôt lié à la machine, de mécatronique, de robotique, c'est vraiment un aller-retour avec les ingénieurs qui sont pas ici. Mais à l'atelier, on fonctionne comme un atelier de costume. C'est-à-dire que c'est des techniques de couture. On travaille avec des fournisseurs qui sont à 300 km maximum de l'atelier et qui sont aussi donc des artisans. Et voilà, on fonctionne vraiment comme un atelier de couture.
Et alors, est-ce que ça vient de tes origines familiales, le travail sur le fil, sur la corde, sur la robe, sur le vêtement, sur la couture? Ou est-ce que tu es partie toute seule dans une voie qui était étrangère?
Non, je pense que ça vient vraiment de ma famille. Ma mère a toujours fait de la couture et mon père était ostéopathe. Donc il y a vraiment un lien entre le fil des fibres et le fil du textile.
Le corps aussi.
Et le corps et le soin, donc d'une part apporté par le vêtement. J'ai aussi grandi très proche du milieu du spectacle vivant et du cirque. Donc j'ai toujours vu en fait les gens changer et jouer en changeant de peau par le vêtement. Et mon père, qui était ostéopathe, lui aussi soignait les gens par la peau directement.
Et donc, est-ce que tu peux revenir sur le moment où tu t'es dit « je vais devenir artiste » ou « je vais m'orienter sur cette voie artistique »
Bah, en fait, je suis artiste depuis très peu de temps. Ça fait depuis... Moi, je dis plutôt que je suis sculptrice, mais c'est une forme d'art, en quelque sorte. Mais... depuis 2019, donc ça va faire 4 ans. Parce que je considère qu'avant, j'étais plutôt dans une formation d'artisane, designeuse ou chercheuse. Mais pour moi, ça ne fait pas de différence. Mm-hmm. C'est juste que j'étais plus dans le milieu de la mode, mais ça, finalement, mes pièces n'ont jamais été présentées. J'ai jamais gagné un seul concours de mode. Ou ce genre de choses, elles ont toujours été présentées plutôt dans des lieux d'exposition. Donc j'ai très vite compris que leur destination, ce n'était pas juste d'être des robes, en fait. Mm-hmm. Que c'était des personnages et c'était de la sculpture, en fait.
Et qu'est-ce qui a fait que ça a basculé, justement ?
Bah, la Villa Médicis, où j'ai eu la chance d'être pensionnaire, et je suis arrivée avec un sujet que j'ai jamais vraiment réalisé, où je voulais travailler sur le corps masculin. Et en fait, ils étaient tous armés, musclés, et les représentations féminines, c'était plutôt les Vénus au drap mouillé. Et donc, très vite, j'ai commencé à habiller des sculptures. Et c'était une fois et demie plus grande que moi, donc j'étais sur des échafaudages. Et à ce moment-là, vraiment, très précisément, je me suis dit, mais pourquoi tu fais pas, toi, de la sculpture avec tes techniques ? Donc ce travail de fil, j'utilise que du fil, enfin, je n'ai jamais tissu une machine à coudre. Et j'ai commencé à faire carrément même les corps qui vont dans les robes. Mmh. Et donc j'ai commencé à créer ces armoires ouais, en 2020. Mmh.
Donc c'est le passage par la résidence à la Villa Médicis qui t'a permis de basculer. Et puis l'environnement dans lequel tu étais aussi, certainement. Et puis tu m'avais dit que tu avais été confinée là-bas.
Ouais, moi je suis partie en plus de la promo, on a été confinés là-bas, et puis c'est vrai que ben, du coup, j'étais la Benjamine, j'étais une des plus jeunes, et il y avait aussi des artistes beaucoup plus confirmés, et en fait eux ils se posaient jamais la question du médium, s'ils devaient faire une vidéo pour exprimer quelque chose ou autre chose, donc ça m'a donné aussi des grands moments de dialogue avec plein de disciplines et plein d'artistes qui m'ont donné la confiance en la façon dont je pouvais exprimer la mode en fait.
Et donc la question de l'intime, c'est aussi quelque chose qui revient dans ton travail, parce que le travail sur le vêtement, le fil, le corps, forcément il y a la question de l'intime, et il y a aussi la question du consentement qui est très fort chez toi.
Oui, c'est forcément intrinsèquement lié. On ne se connaît pas tous tout nus, on se connaît principalement tous habillés, enfin toutes et toutes habillées, et pourtant c'est la première chose qu'on fait le matin. Et donc moi, c'est ça que je trouve intéressant, et surtout avec cette idée de fil, parce qu'il y a vraiment cette idée, on peut tout détricotisser, on peut se défiler, et donc il y a vraiment ce rapport entre caché et montré, et donc entre, évidemment, l'intime, et le fait aussi de la question du consentement, c'est à quel moment, puisque ce sont des vêtements à l'origine, mais finalement ce sont des sculptures, est-ce qu'on peut les toucher ? Et si on touche mes pièces, on les défait, parce que ça prend un temps fou d'installation. Mais par contre, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut les regarder, on peut les sentir, parce qu'elles ont toujours une odeur. Mais elles ne peuvent pas dire oui ou non. Donc, comme n'importe quel individu, on demande.
Mmh. Oui. Et du coup, bah, a priori, une sculpture, normalement, on n'y touche pas.
Ouais.
C'est pour ça aussi que ça peut permettre de créer peut-être une forme de distance par rapport au public.
Normalement oui, mais comme il s'agit d'une sculpture textile, il y a vraiment le sens du toucher, comme c'est vraiment notre première action de matin. Il y a quelque chose d'utiliser ces matériaux-là qui donne envie de toucher.
Oui.
Et moi j'aime bien travailler sur cette idée qu'elle soit quelque part effectivement désirable de toucher, mais de travailler sur cette aura qui fait qu'en fait on ne va pas se permettre. Mm-hmm. J'y suis pas encore du tout arrivée, mais...
A priori, on n'y touche pas quand même à tes sculptures, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de presque un peu sacré aussi, parce que elles ont un côté un peu totémique, et elles évoquent aussi des sculptures... Bah, tu parlais tout à l'heure de ce que tu as vu à la Villa Médicis, ça évoque l'Antiquité aussi, et donc peut-être des divinités également. Mm.
Bah, c'est très inspiré, oui, c'est une relecture de l'histoire de la féminité, enfin... Voilà, et c'est des armoires, donc c'est vraiment un lien entre la force de l'armure et en même temps la fragilité des relations humaines, puisque si on glisse notre main à l'intérieur, on touche leur cœur aux sculptures. Et c'était vraiment plutôt cette idée de, elles sont armées pour un futur, mais elles n'ont pas la guerre en fait, juste elles savent se défendre et aussi dire non.
Et à ce moment-là, justement, est-ce que tu penses que les constructions sociales de l'identité sexuelle, donc féminine, masculine ou autre, de genre, entrent en jeu dans la production la réception et l'interprétation de tes œuvres. C'est-à-dire que, est-ce que, plus particulièrement, est-ce que ton travail, dès qu'il est vu comme ça par quelqu'un qui ne le connaît pas, intuitivement, il sait que c'est le travail d'une femme ou ça n'entre pas en jeu, c'est pas essentiel comme question?
Je sais pas, j'ai jamais été à la place des gens qui voient mes pièces. Mais je pense qu'on comprend. Après, y a certaines pièces qui n'ont pas de genre et elles tendent aussi à être des métamorphoses proches d'Ovid à des endroits. Donc on ne sait pas si c'est des fleurs, si c'est des pierres, si c'est... Par exemple, la dernière exposition, il y a aussi la présence d'hommes qui portent... Enfin, dit hommes, mais ça pourrait être aussi des femmes. Mais il y a cette question d'être enceint ou enceinte. Mm-hmm. Elles pourraient très bien changer de sexe comme elles veulent, en fait.
Oui, c'est ça. La question de la métamorphose est essentielle pour toi parce que bien souvent aussi, on peut penser à des écorchés ou des écorcés, comme tu dis toi-même. Il y a la question de la mue aussi, la transformation, le passage d'un état à un autre. Donc ça va au-delà de la question du genre ou de l'identité.
Oui, c'est ça.
Et même ça va au-delà presque de l'humanité qui peut aller vers un autre genre qui pourrait être végétal ou animal ou pourquoi pas même minéral.
Mmh. Bah, pour moi, de toute façon, les présences sont, pour certaines, contiennent des fleurs, donc elles sont déjà des écorcées, puisque elles sont composées de végétaux. Mmh. Donc c'est pas des humains, des humaines, mais ouais.
Mais elles rappellent quand même le corps.
Oui.
Dans sa totalité. Mm. Et je voudrais revenir donc sur tes débuts. Donc, comment ton travail a-t-il été remarqué? Parce que pour arriver à la Villa Médicis, il faut bien avoir quand même un premier cursus pour que c'est un jury.
Ouais. Alors, moi, mon travail a été remarqué plutôt par... en fait, j'ai développé une technique qui est brevetée maintenant, qui n'existait pas, qui s'appelle le tricotissage, qui est basée sur... la copie du tissage musculaire humain comme premier vêtement intrinsèque qui permet en fait de faire des vêtements sur mesure sans chute de manière locale, qui a conduit au développement d'une machine qui permet de faire ce que je faisais en 3 mois en 7 minutes et donc qui a fait le projet d'un cursus de thèse en fait entre l'école des mines, l'ENS et les arts décoratifs. Et donc moi j'ai passé le concours de la Villa Médicis pendant l'écriture de ma thèse puisqu'en fait j'ai dû arrêter de ma pratique de designer pendant 1 an et demi pour écrire, chose que je déteste faire puisque j'écris plutôt par la forme, donc par mon travail plutôt de plasticienne en réalité, ça dont je me suis rendu compte. Et donc j'ai imaginé à ce moment-là qu'est-ce que je pouvais rêver de faire de mes mains et c'est comme ça que j'ai candidaté à la Villa Médicis. Mm-hmm. Donc je pense que j'ai été plutôt remarquée par le travail de chercheuse. Mmh. À l'origine et de mode.
Très bien. Et par la suite, est-ce que tu t'es sentie soutenue dans ce milieu-là, enfin, ou dans les divers milieux dans lesquels tu évolues finalement?
Non, je pense que dans le milieu, finalement, la recherche m'a totalement acceptée. C'est le premier milieu dans lequel je me suis sentie bien, puisqu'il n'y a pas de question de temporalité. C'est une dimension universelle où si on rate, c'est pas grave, puisqu'on donne une autre piste. Et on va pas dire que c'est beau ou moche comme ce qu'il peut y avoir beaucoup dans le milieu duquel je viens à l'origine, donc le milieu de la mode. Et il y a une temporalité qui est incroyable. On n'est pas dans une collection tous les 6 mois, on n'est pas dans des... Et donc le premier milieu dans lequel je me sens si bien, c'est la recherche. Pour moi, l'art, c'est la même chose. Malgré que ça soit un milieu complexe, il s'agit d'un marché, c'est sûr, c'est pas une industrie.
Non.
Et donc ça n'a rien à voir et je me sens extrêmement mieux ici. Ça me permet de parler plus clairement de choses dont je ne pouvais pas parler dans le milieu dans lequel je venais. Mmh. Et en fait, la question de la pièce unique et de l'auteur dans le milieu de l'art est beaucoup plus important que dans l'industrie textile.
Oui, oui. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de produire pour, en effet, des dates bien précises, à part une exposition, quand même.
Ouais.
Mais
après, les expositions, c'est aussi dans la temporalité. Moi, j'ai une pratique où des pièces font plus de 2000 heures de travail pour certaines. Ouais. Donc, à un moment donné, c'est pas... Bon, le temps de mes collections, il est très long.
Oui.
Voilà.
Ouais. Et alors, justement, est-ce que tu peux revenir sur la façon dont fonctionne ton travail, c'est-à-dire Donc comment les idées te viennent pour tes nouvelles pièces?
Alors là, on est dans un atelier à Montreuil. C'est vraiment un atelier, c'est mon bureau et puis un atelier de production où on travaille. Mais les idées viennent principalement de la nature. Et moi, j'ai besoin d'être assez seule et de me plonger dans des environnements. Donc voilà, un temps comme un an à Rome, c'était incroyable parce que ça a nourri. Et c'est vraiment ces temps-là où je pars régulièrement en fait m'immerger dans des lieux où je vais aussi ramener des éléments. Et après, ensuite, je viens ici dessiner.
On le voit bien d'ailleurs dans ton atelier, il y a un mur qui est recouvert de cabinets de curiosité, et donc il y a des choses qui viennent du monde minéral, végétal, animal, et on voit bien que c'est en effet pour toi source d'inspiration.
Mmh. Oui, en fait ici c'est vraiment le lieu où on ramène l'inspiration, et après ben, on essaie que ça dure le plus longtemps possible, mais dès qu'il faut recharger les batteries, voilà.
Et donc à partir de cela, ton médium c'est le fil. Le câble aussi, la corde.
Ouais, on peut dire que c'est des drisses.
Des drisses, oui.
Ouais, j'utilise que du fil. C'est comme si je dessinais en trois dimensions avec du fil que je maintiens à différents endroits. Et c'est ma palette, comme une palette de feutre, on va dire, avec un fil aussi fin qu'un cheveu à des épaisseurs infinies de taille de corde. Et les cordes sont extrêmement solides puisqu'elles sont normalement utilisées. C'est des bouts de navigation qui sont utilisées pour les bateaux ou pour la scénographie.
Donc on a parlé du médium, on a parlé de la forme.
Et des fleurs.
Et des fleurs, oui. Et j'aimerais bien aussi qu'on parle des couleurs, alors. Mm. Parce que le noir, le blanc domine. Il y a aussi du rose.
Ah ben c'est principalement les seules couleurs.
Ouais.
Le noir, c'est vraiment de l'origine de mon travail, puisque je travaille sur la structure textile. Donc ce tricotissage qui copie la fibre musculaire, je me suis inspirée des livres d'anatomie. Mm. Et du coup, c'était tout au trait noir.
On trouve aussi des planches.
Ouais. Et comme c'était que des traits, et ben c'est plus simple pour moi de d'abord expliquer la structure avant de rajouter du motif ou de la couleur. Par ailleurs, je vois pas très bien les couleurs, donc ça, c'était pas mal. Et le blanc, c'est venu quand j'ai commencé à travailler sur des marbres, donc pour être en accord aussi. Je trouvais que c'était trop dur c'était beau de travailler sur un monochrome. Et le rose, c'est venu parce que j'ai commencé à travailler avec des roses. Et donc la couleur, elle est venue par les végétaux. En fait.
Elle évoque aussi peut-être la chair et ce qui se passe sous la peau également.
Tout à fait, oui.
Quelles seraient tes aspirations actuelles?
En ce moment?
Oui. Vers quoi tu as envie de tendre?
Ben là, le truc, c'est qu'elles sont de plus en plus liées au monde animal et des insectes. Mmh. Et il y a quelque chose comme ça où il est en train de s'opérer une nymphose. Une nymphose, c'est vraiment juste avant la transformation du papillon, où en fait le corps va devenir une sorte de soupe. Mmh. Et il va constituer 6 disques pour devenir ensuite un papillon. Et moi, je travaille essentiellement, je me suis rendu compte, avec des disques. Et principalement, en général, pas moins de 6 par pièce. Mmh. Et donc, on est vraiment dans un moment où il se passe là quelque chose vraiment entre la femme, l'homme, l'insecte. Et les minéraux qui sont en train de naître. Et là, en ce moment, je m'intéresse vraiment sur la question de la relation et la procréation.
Donc c'est ta recherche actuelle. Mm. Et comment tu imaginerais une exposition de tes rêves?
Une exposition de mes rêves, ça serait pas une exposition, je pense que ça serait quelque chose de très scénographié, où en fait il y a autant d'enjeux dans le dispositif entre les pièces qui sont des véritables personnages. Il y aurait de la musique, il y a quelque chose aussi en ce moment qui m'intéresse de plus en plus. Moi je travaille au parfum, hein, donc il y a toute cette dimension, et il y a aussi la danse, puisque là je vais partir en résidence pour un projet de spectacle en réalité. Mm-hmm. Où le costume devient parfois des sculptures, et donc il y a vraiment cette idée.
J'ai déjà eu une collaboration déjà.
Oui. Moi, j'ai travaillé avec quand même plusieurs chorégraphes. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'intéresse dans une espèce de travail total autour des pièces, en fait. Et en fait, je me rends compte qu'il y a de la dramaturgie et il y a de la scénographie, en fait, à chaque fois. Donc ce côté un peu dramatique, ce serait ça un peu le...
Et alors pour finir, est-ce que tu pourrais nous indiquer une œuvre qui t'a marqué profondément, qui peut-être t'a influencé ou a fait basculer ta recherche ou ta réflexion, ou même quelque chose de plus personnel ?
Ah, il y en a deux. Oui. Une œuvre de la, de
n'importe.
Que j'ai vue.
Oui, vue, découverte, entendue, lue.
Oh, il y en a plein en réalité. Ben, moi, c'est en 2013, j'ai vu trois expositions. Il y avait la mécanique des dessous au musée d'art décoratif, où en fait on comprenait toute la structure interne de la construction de l'histoire du vêtement, et c'était incroyable. Et pour le coup, il y avait tout un monde animal, puisque il y avait des tournures en queue d'écrevisse, enfin, et puis tous les corsets, c'est de la pure anatomie. En parallèle, il y avait l'exposition au musée Bourdelle sur Madame Gray, qui a toujours rêvé de sculptrice, mais bon, qui était à une époque où elle a fait de la mode, qui était incroyable. Et il y avait cette exposition sur Ron Mueck à la Fondation Cartier. Et je trouve que là, en 2023, aujourd'hui, il y a une similitude d'exposition très proche, parce qu'il y a de nouveau Alaïa et Gray à la Fondation Alaïa en ce moment, il y a eu Ron Mueck, et il y avait une très belle exposition chez Balenciaga sur l'envers des vêtements. Donc moi, vraiment, les influences, ça a été vraiment, voilà, ces liens entre corps, mode et art.
Donc ça reflète bien toute ta recherche, c'est-à-dire ouvrir le plus largement les frontières et surtout les abolir totalement pour qu'il n'y ait plus les arts plastiques d'un côté, les arts décoratifs de l'autre, la mode.
Ah oui, la création, c'est la création.
Ouais. Merci beaucoup, Jeanne.
Merci.
Cube Rouge est un podcast diffusé sur Art District Radio sur une proposition d'Isabelle de Maison Rouge, le mercredi et le samedi à 14h la semaine de la sortie de l'épisode. Retrouvez tous les épisodes de Cube Rouge en podcast sur le site internet de la radio et sur toutes les plateformes d'écoute en suivant le fil des podcasts d'Art District Radio.